Cet appel à la grève, il faut le comprendre comme la suite de la très forte mobilisation que nous avons connue l'année dernière dans les collèges, suite donc à la volonté du ministère de réformer le collège sur les quatre niveaux en même temps, tout en réformant l'ensemble des programmes ainsi que les procédures d'évaluation, sans qu'il y ait eu véritablement de concertation et d'écoute des propositions de la profession. Contrairement à ce que la ministre affirme partout, puisqu'elle semble dire que la rentrée est réussie avant même qu'elle ait eu lieu, nous pensons que la rentrée ne sera pas réussie de cette manière-là. C'est-à-dire que pour nous, une rentrée réussie, c'est pas simplement qu'il y a un prof devant chaque élève. Ça, c'est quand même un minimum. Simplement, à la rentrée, les collèges vont être complètement bouleversés, avec donc des changements majeurs dont les conséquences n'ont pas forcément été anticipées. Donc nous pensons que les collèges ne vont pas pouvoir fonctionner normalement, sereinement, dès la rentrée comme il le faudrait. Ça, c'est la première chose. L'autre aspect, c'est la mise en œuvre d'une réforme qui ne répond pas aux besoins du collège et aux besoins des collégiens. Le plus important pour nous, c'est l'aspect emblématique de cette réforme, c'est les 26 heures de cours pour tout le monde. Ça veut dire que dans la plupart des cas, les élèves vont avoir moins d'heures de cours que ce qu'ils avaient auparavant. Alors, si ça peut paraître séduisant, parce qu'on dit toujours que les journées des collégiens sont fatigantes, concrètement, ça veut dire plus d'heures où les collégiens sont livrés à eux-mêmes, plus d'heures devant les écrans, plus d'heures dans la rue éventuellement, et on sait notamment en éducation prioritaire à quel point ça peut être dangereux.
Alors vous avez dit un enseignant devant chaque élève, on sait qu'il y a une crise de la vocation, est-ce que c'est vraiment le cas dans l'académie? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il n'y ait pas justement un prof devant chaque élève dans le secondaire?
Ce problème-là de la présence d'un prof devant chaque élève, il est sensible un peu plus tard dans l'année. Il est sensible notamment au moment du pic d'épidémie en hiver, quand certains enseignants s'absentent parce qu'ils sont malades et qu'il faut les remplacer. En tout début d'année, c'est moins sensible. En revanche, la crise des recrutements, elle est réelle. Notamment, une des choses qui empêche que le ministère remplisse ses objectifs de création de postes, c'est que même les postes qui sont mis au concours ne sont pas forcément pourvus, en particulier dans des disciplines aussi cruciales que les maths. Et on sait que depuis plusieurs années, on peine à recruter des enseignants.
On a beaucoup parlé du collège, mais qu'en est-il au niveau du lycée ?
Alors le lycée, c'est un peu la zone d'ombre de la rentrée, notamment dans son aspect médiatique. Tout le monde focalise sur le collège sans penser que les difficultés vont aussi se trouver avec beaucoup d'acuité dans les lycées à la rentrée. Si on prend l'exemple de notre académie, nous allons accueillir environ 900 lycéens supplémentaires. Pour simplement assurer le même taux d'encadrement que nous avions en 2015-2016 et qui est largement insuffisant, il faudrait 90 postes de plus en lycée. Nous en avons 40 pour encaisser la hausse démographique. Ce qui veut dire déjà mécaniquement une augmentation du nombre d'élèves par classe. Cela s'explique par la hausse démographique. On se rappelle du baby-boom de l'an 2000. Ils ont 16 ans, 15 ans, 14 ans. Donc ils sont au lycée où ils y arrivent. Avec une tension plus particulière sur les quartiers nord de Marseille où la démographie est vraiment très très forte. Nous avions déjà un nombre d'élèves par classe, en particulier en seconde, absolument excessif, qui empêche de travailler d'une manière satisfaisante avec les élèves et qui a une incidence notamment sur le décrochage. Si des élèves décrochent en cours de lycée, c'est parce qu'il n'est pas matériellement possible à un enseignant devant 35 élèves de détecter la difficulté suffisamment tôt et d'y répondre. À cela se sont ajoutées un certain nombre de mesures qui ont été prises dans l'impréparation la plus totale l'année dernière. Ça a commencé par ce qu'on appelle le droit au redoublement pour les élèves de terminale. Alors, sous cet aspect-là, très bien, nous sommes parfaitement d'accord avec l'idée que les élèves aient le droit de redoubler leur terminale en cas d'échec dans leur lycée. Mais cela s'est accompagné du droit pour les élèves de conserver les notes qu'ils avaient obtenues supérieures ou égales à 10 au bac. Ce qui veut dire que concrètement, on a des élèves maintenant en terminale qui ne repassent pas certaines matières. Et ça devient finalement une forme de formation à la carte qui est très compliquée à gérer. Ces élèves ayant normalement une obligation d'assiduité, mais on imagine bien ce que c'est qu'une classe dans laquelle 5 ou 6 élèves ne passeraient pas l'épreuve d'histoire-géo, mais seraient obligés d'assister au cours d'histoire-géo. Et cela est un facteur d'augmentation des effectifs de terminale. Et en seconde et en première, sont parus des textes d'application d'un décret qui supprime, pour ainsi dire, le redoublement, à la fois en fin de troisième, en donnant aux familles la possibilité de choisir l'orientation de leur enfant complètement. C'est-à-dire qu'à la rentrée, nous aurons en seconde des élèves qui vont être en très grande difficulté, qui auraient pu réussir en lycée professionnel, par exemple, mais qui vont se retrouver en seconde générale et technologique, sans que nous ayons les moyens de les accueillir et de leur proposer l'aide à laquelle ils auraient droit pour réussir. Et en première, nous aurons des élèves qui, de la même manière, se seraient vus proposer normalement un redoublement en fin de seconde les années précédentes. Mais le décret prévoit que le redoublement reste très exceptionnel. Et les conseils de classe ont été obligés de prononcer une orientation en première générale et technologique d'office. Si bien que nous allons avoir en première des élèves qui n'auront pas le niveau de réussir, qui vont se trouver noyés très très vite et qu'il va être très difficile de prendre en charge dans les classes.
On a vu un attentat en plein milieu de l'été. Il a provoqué de multiples réactions au niveau des politiques. Il a été question justement de préparer les élèves et notamment les plus âgés, donc ceux du secondaire, aux valeurs de la République. Quelle est votre position là-dessus ?
Il y a deux aspects de cette question. Le premier, c'est le rôle que les enseignants jouent en tant qu'enseignants auprès de leurs élèves en matière de formation, de développement de l'esprit critique, de la capacité à, par exemple, analyser et à comprendre des différentes sources d'informations. La connaissance de l'histoire, par exemple, hein, qui fait partie pleinement du rôle des enseignants, à la fois dans l'éducation morale et civique, en histoire-géographie, en philosophie, etc. Il y a un autre aspect sur la question, sur cette question-là, qui est assez récent, qui est la sécurité des établissements. C'est un aspect qui est assez nouveau. Les enseignants ont toujours été responsables de la sécurité de leurs élèves, mais il n'y avait pas, dans l'actualité, de tension particulière sur ce sujet. Les enseignants, évidemment, ont à cœur d'assurer la sécurité de leurs élèves. Et à ce titre, on regrette que toute la communication de l'institution se fasse en direction des parents et des chefs d'établissement, comme si les premiers acteurs de la sécurité des élèves n'étaient pas les enseignants et les CPE. C'est intéressant de voir, par exemple, qu'au budget pour la rentrée 2017, il n'y a aucune création de postes de CPE ou de surveillants, alors même que ce sont quand même eux qui sont en première ligne. Quant aux enseignants, le ministère a publié des livrets à destination des chefs d'établissement et des parents d'élèves sur la question de la sécurité des établissements. Il n'y a rien à destination des enseignants, ni par exemple conseil, communication, ni préoccupation de savoir si combien d'enseignants, combien d'adultes dans l'établissement ont le brevet de premier secours, qui ne fait pas partie de la formation des enseignants. Nous, on pense qu'il y a, de ce point de vue, une manière de piloter la question de la sécurité qui passe complètement sous silence la réalité de la situation, c'est-à-dire que les élèves, l'immense majorité de leur temps, ils sont auprès des enseignants dans leur classe.